Pourquoi l'Église demande-t-elle de ne pas mener la vie commune avant le mariage sacramentel? Et pour cette sorte de don, reprise, je donne, je reprends, je donne, je reprends, qui use la volonté humaine et qui use la liberté humaine. Oh, ça fait 5 ans que je vis avec lui, moi je vais me marier, quoi. Mais vous l'aimez plus. Décider de se marier, c'est se connaître, donc se faire la cour, parler et s'engager avec des surprises, avec des changements de situation de vie et les avaler à chaque fois pour continuer ensemble. Vous voyez, il y a une véritable confiance mutuelle dans le mariage. On ne connaîtra jamais parfaitement l'autre. Et alors, vous avez un cas particulier qui a duré des siècles, c'était les mariages arrangés, qui existent toujours dans les communautés catholiques, plus particulièrement en Inde, chez les Tamouls. Vous avez toujours des marieurs et des marieuses, des entremetteuses. Et un jour, j'étais là au bureau des mariages, je vois un Tamoul. Je suis content, je vais rencontrer ma fiancée pour la première fois. Et moi, comme Français de 2018, ça me fait tout drôle de voir un homme du 19e siècle ou du 16e siècle. Et alors il me dit, mais moi, on me l'a choisi, mes parents me l'ont choisi, et j'apprendrai à l'aimer. Et là, en coup pied de l'âne, il me dit, de toute façon, nous, on divorce moins que vous. Blanc. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est l'intention matrimoniale d'un mariage arrangé? C'est une grande confiance dans les familles mutuelles, c'est une grande confiance dans les discussions patrimoniales pour certaines familles. Vous pouvez aussi, les mariages arrangés sont aussi entre personnes très modestes. Hein. Et là, il n'y a pas grand problème de savoir s'il y a un chant, si les chants sont mitoyens, si après. Voilà. Mais le mariage arrangé, alors là pour le coup, c'est une très grande confiance, aussi bien païenne que chrétienne, dans le futur, dans la providence. On va se connaître et on va s'aimer. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est la coutume. Impressionnant. Je crois que Saint François de Sales, son père était un veuf et qui a épousé une jeune fille de 16 ans. L'âge nubil, c'était 12 ans pour les femmes et 14 ans pour les hommes. Pourquoi? Dès que vous êtes pubère. Et donc, on se mariait grosso modo vers 16-18 ans. Donc, elle, c'était c'était l'autre, une famille noble, 16 ans. On lui présente un monsieur de 30 ans, qui est veuf, monsieur de la Salle, monsieur de Salle. Et ils se sont mariés, et ils se sont aimés. Au point même que Saint François de Sales, lui, dit « Je ne suis pas devenu saint en surmontant les épreuves de ma vie parce que mon père et ma mère ne s'entendaient pas. » Non, il dit « Mon père et ma mère se sont tellement aimés que j'ai eu un exemple d'amour que j'ai fait fructifier en devenant prêtre et évêque. Voilà. » C'était des mariages arrangés, des mariages nobiliaires, des mariages bourgeois. Mais... Alors, voyez, pourquoi l'Église demande-t-elle de ne pas mener de vie commune avant le mariage sacramentel? On a une capacité, si vous voulez, de don. Mais si vous n'êtes pas tenu par la pression sociale, c'est un mariage arrangé. Non, pour nous, c'est strictement impossible. De nos jours. Hein. Oui. toute façon, personne ne nous présente des mariages arrangés en France actuellement. Enfin, sauf venant d'autres pays, hein, mais des Français, c'est hors de question. Et nous, on refuse de les marier, bien sûr. Est-ce au nom d'un code moral? Non, c'est au nom de la nature humaine. Et avec de véritables critères de jugement objectifs. Une sagesse humaine pour aider chacun à se choisir. Oui. Est-ce dans l'attente de l'engagement du Christ dans le sacrement de mariage? Le Christ, lui, vous dit, je vous donnerai des grâces, de l'aide pour vivre et vous aimer l'un l'autre, spécialement, au point que c'est un sacrement. Et là, nous verrons le mariage dans la Sainte Écriture dans jeudi prochain. Enfant, du coup, avec tout ce que je vous ai dit, comment envisageons-nous la régulation des naissances? D'un point de vue de la loi naturelle, uniquement méthode Billings, température. Et encore, hein, moi j'ai connu ceux qui font ça de manière excessive, ça pourrit la vie, hein, franchement. Bon. Alors est-ce que je vais vous faire peur? Oui, je vais vous faire peur. Une famille relativement prudente. Relativement prudente. Ils ont voulu des enfants. Ils ont eu au moins 7 enfants. Et puis après, en étant prudents, modérément prudents, ils ont eu encore 2 autres enfants. Donc 9 enfants. Et puis alors là, ils ont été très 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 prudents. Ils ont fait attention. Les périodes de fécondité naturelle. Avec une ouverture à la vie toujours vraie. Mais elle était réglée comme du papier à musique aussi, madame. Hein, Et puis, au bout de 7 ans, à 51 ans, Geneviève, c'est moi que v'là. Et donc, le gynécologue était là, il dit, alors, donc il a suivi, grossesse impeccable, là pour le coup. Voilà. Et donc, le papa, il a 53 ans, la maman, elle a 51 ans, et tout va très bien, la famille, l'enfant se porte très bien. Et les frères et sœurs, dont l'aîné a 28 ans, eh bien, voilà, il va. Eh bien, comment dire, elle s'occupera des parents quand ils seront malades. Et, mais actuellement, vous savez. Alors là, bon, c'est vraiment l'intégriste fini, la miche déguisée en catholique. Si vous voulez, c'est. N'oubliez pas hein, que toutes ces personnes dans les EHPAD, ça n'existait pas, parce que justement, vous aviez les derniers qui s'occupaient de leurs parents. Voilà. La vie humaine est équilibrée. Mais bon, c'est. Voilà. Vous pouvez pas. Je ne pouvais pas vous dire autre chose. Vous êtes tombé vraiment dans un piège, traquenard. Quels sont nos désirs et nos craintes? Avons-nous le désir de nous informer ou de nous former pour vivre nos choix de la façon la plus responsable dans ce domaine? Alors, si vous approchez des groupes Billings et tout ça, alors là, vous saurez tout sur tout. Des sessions Billings et tout ça. Ça, vous avez sur Internet, je vous laisse. Alors, vous avez même des gens non-croyants qui font la méthode Billings. Pourquoi? Mais parce que la pilule est cancérigène. Ce n'est pas d'une blague. Hein. Ce n'est pas seulement des problèmes de circulation, de trucs, des conneries. Hein. Ça vous fout en l'air le système hormonal et ça provoque certains cancers. Et donc, vous avez des personnes qui savent très bien que la pilule, c'est absolument pas anodin. C'est une bombe nucléaire hormonale. Hein. D'ailleurs, les hommes, ils sont. Eux, bon, de toute façon, ça serait embêtant pour eux, quoi. Bon. Et donc, la pilule pour l'homme, elle n'est pas prête de venir. Hein. Mais la femme, elle est sacrifiée sur ce plan-là. Eh bien, vous avez des véganes, des écolos, à fond les ballons, qui prennent jamais de chimique, parce que, comment dire, ils veulent pas s'empoisonner. Mais bon. Mais le problème n'est pas là, ici. Le problème est un problème de foi et d'espérance. Avons-nous pu envisager le cas d'avoir un enfant handicapé physique ou mental? Alors, je vais vous dire, hein, un enfant, une personne humaine, malade, eh bien, c'est une personne humaine. Et donc, c'est la gloire des croyants catholiques, pratiquants, ou même non pratiquants, comme Lino Ventura. Lino Ventura, je ne sais pas s'il était un pilier de sacristie, ou s'il allait à la messe tous les dimanches, mais lui, il a eu un enfant handicapé, il a fait personnage. Et donc, le professeur Lejeune, tout... Mère Teresa, alors là, Mère Teresa, c'était absolument incroyable. Elle faisait le tour des bidonvilles pour ramasser les enfants qui allaient être tués ou jetés. Et dans les hôpitaux, à chaque fois qu'il y en avait un qui allait être... on la laissait mourir de faim, tout ça. De toute façon, son karma n'était pas bon. Hein. Et donc, dans un premier temps, elle a récupéré uniquement les enfants qualifiés non viables. Et pendant des années et des années, elle a soulagé ses enfants, jusqu'à leur mort, à différents âges. Et puis, à un moment donné, ces orphelinats sont devenus tellement importants qu'elle a eu des enfants en bonne santé, voilà. Abandonnés. Récemment, là en Inde, le gouvernement hindou est très très violent contre toutes les religions. Et donc, ils ont essayé d'accuser une religieuse de Mère Teresa d'avoir fait de la vente d'enfants dans l'orphelinat, tout ça. On voudrait attaquer toutes les religions, les musulmans, les catholiques, les protestants en Inde. Le gouvernement actuel est extrêmement dur. Je ne sais pas si vous faites un peu d'histoire, de sociologie, de politique au sens noble du terme, je peux vous assurer que ça rigole pas. Avons-nous envisagé le cas de stérilité? Voilà. Alors sachez que les procréations médicalement assistées provoquent la mort de plein d'enfants qui sont conçus en dehors du corps de la femme. C'est ce qu'on appelle la PMA. Mais même la PMA entre un homme et une femme, si vous voulez, c'est la loi naturelle vous dit que l'union sexuelle est sans témoin, enfin, ou sans tierce personne. L'union sexuelle, c'est à deux. C'est pas avec un médecin qui est là, qui est avec une pipette, qui recueille la semence et qui la met dans le corps de la femme. Qu'on puisse aider la semence à se frayer le chemin par par des opérations, par des actes médicaux, mais si vous voulez, l'acte sexuel reste à deux. C'est vraiment très 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 archaïque ce que vous nous dites. Mais c'est, si vous voulez, à chaque fois qu'on fait la procréation médicalement assistée, si vous voulez, la procréation artificielle, vous allez au-delà du corps humain, et puis ensuite, vous allez surtout... le bon Dieu, lui, dans sa providence, c'est la rencontre de ces deux cellules, c'est la loi naturelle, c'est son engagement. Donc, des petits êtres sont créés dans des pipettes, dans des tubes de verre. Et ensuite, vous en avez un certain nombre qui meurent. Vous les implantez, vous les réduisez, tout ça, si vous voulez, c'est contre nature, même entre un homme et une femme. Alors, avec donneur, tout ça, mais c'est tout ça, si vous voulez, c'est contraire à la vie humaine. Les enfants, quand ils sont conçus avec un donneur, ils ont plus qu'une seule question, c'est il est vivant? Qui est-il? Vous voyez, quand un orphelin est adopté, un enfant est adopté, ou quand un enfant est l'enfant d'une prostituée, de son client, il sait que son père, il n'arrivera pas à le retrouver, parce que c'était un client de passage. Mais il sait qui est son père en soi. Mais si on lui dit, ah mais c'est un donneur, et ça reste anonyme, et ceci, si vous voulez, c'est... Il y avait comme ça une SDF, qui avait une fille de prostituée qui était elle-même tombée dans la misère et tout ça. Enfin, elle répondait, elle disait, vous savez, je sais que mon père était un client de ma mère, mais je donnerais tout pour le rencontrer ne serait-ce qu'une seule fois. Pardon? Je donnerais tout pour le voir une fois. Tellement la loi du sang est puissante en nous. Et quand vous avez des interventions de bébés, ça c'est la hantise, j'espère que vous n'allez pas avoir cette hantise. Hein. Calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. Vous avez eu encore récemment un procès. C'est extrêmement rare, extrêmement rare, extrêmement rare. Vous avez un bébé qui est interverti avec un autre bébé. Ils grandissent, tout va bien. Et en fait, c'est pas votre fille, c'était votre fille, et tout ça. Et on finit par le savoir. En général, le bonhomme qui le découvre, il fout la poubelle et c'est fini. Là, ça s'est découvert. Il faut dire quand même qu'elle ressemblait ni à son père et à sa mère. Bon, mais voyez-vous, l'amour, là, l'emporte sur la loi du sang. Mais il y a quand même une blessure. Les indemnités données par les hôpitaux, les maternités, sont énormes. Hein. Pourquoi ? Alors peut-être qu'on exagère un peu, mais s'il y a une souffrance, quand même. On sait que son papa et sa maman, c'est eux. Mais l'homme et la femme qui nous ont nourris, lavés pendant 10 ans, 15 ans, c'est eux. C'est l'adoption, la pure adoption, là. L'adoption totale, parce qu'on croit être parent. Et donc, si vous voulez, là je ne vais pas vous développer. En ce qui concerne l'adoption, il faut vraiment en parler, mais aussi à un prêtre, à quelqu'un qui a une expérience humaine, spirituelle, qui vous dit ce que c'est que d'entrer dans la vie, de faire entrer dans une vie toute une personne. Il y a des enfants qui ont été adoptés à 5 ans et 3 ans d'un orphelinat roumain. Les orphelinats roumains sont connus pour être extrêmement... Il y a des enfants qui étaient dans une pièce unique à 10, à 20, avec un pot au milieu, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Du temps de Ceausescu, et tout ça, c'est des trucs terribles. Et ils vendaient les enfants. Eh bien, cet enfant, il a 22 ans, il sait qu'il est roumain, il a eu un père et une mère aimants comme c'est pas possible, et il était adopté à 3 ans, eh bien, il a des souvenirs flash, de tout ce qu'il a subi jusqu'à 3 ans. Et il a fait du stop et il est parti en Roumanie pour retrouver sa mère. Imaginez la tête des parents qui sont là, qui l'ont eu l'âge de 3 ans. Et d'autres fois, l'adoption se passe parfaitement. Il n'y a pas de loi pour l'adoption. Il n'y a pas d'obligation d'adopter. Un couple qui n'a pas d'enfant est un vrai couple. Il y a un amour conjugal, il y a un amour de matrimonial dans le couple. Et si vous voulez, la pente humaine veut que l'apparition de l'autre, et puis l'autre qui est l'incarnation de votre amour. Et à deux, quand vous avez une personne qui est là, qui veut l'enfant et qui divorce dès qu'elle a l'enfant parce qu'elle voulait un enfant, en fait, le mariage est nul. Une personne qui attend d'avoir un enfant et qui voulait faire les choses bien, n'est-ce pas ? Mais dès qu'elle a son enfant, même un deuxième enfant, et après elle jarte le mari parce qu'en fait elle voulait que des enfants, elle adore les enfants, c'est monstrueux. Eh bien, voyez-vous, tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut être d'épreuve et tout ça, tout se surmonte par le don. Un don gratuit, un don d'espérance dans le mariage. Et donc, si vous voulez, si vous êtes stérile, Que représenterait pour nous la possibilité d'adopter? Elle est libre et elle est un saut aussi dans la providence. Je connais un couple stérile, ils n'en souffrent pas trop. Leur amour est très riche. Un autre, la femme ne peut pas voir un enfant sans pleurer. 12 ans de mariage, elle est là, chaque fois qu'on lui montre un bébé, pouf! Et c'est mystérieux, c'est très personnel, c'est très intime. Mais voyez-vous, dans la Sainte Écriture, il y a un passage. C'est la mère de Samuel qui était stérile et qui commençait à être âgée. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Son mari avait pris une deuxième femme pour avoir une descendance. C'était le temps de la polygamie mosaïque. Mais il aimait beaucoup sa femme de premier rang. C'était la femme de son amour. Et à un moment qu'elle pleurait, parce que l'autre, elle était là, elle a fait son quatrième enfant, il dit « nananer, nananer ». C'était épouvantable. Et lui, il lui dit « Mais est-ce que mon amour ne te vaut pas 10 enfants ?» Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est 1000 ans avant Jésus-Christ, il y a 3000 ans. On est dans des mœurs assez austères, on a la polygamie, la répudiation, on a la polygamie. Lui, c'est un saint homme qui vit dans son temps, avec possibilité d'avoir plusieurs femmes, et qui lui dit « Mon amour ne te vaut-il pas 10 enfants ?» Non, pour l'époque, si vous voulez, c'était un homme. Mais, voyez-vous, l'adoption, moi, plutôt que d'un autre couple, ils ont alors 2e enfant adopté. Et ils ont été très patients, ils ont voulu un enfant qui leur ressemble. Moi, je connais un couple qui a adopté des enfants colombiens et qui sont vraiment typés. Vous voyez? Donc il y aura à dépasser la dissemblance physique de la couleur de la peau, des cheveux. Et une personne comme ça qui a adopté une chinoise. À 22 ans, elle a explosé. Mais littéralement, la fille. Elle voulait plus les voir et tout ça. Et donc, ça a été très très dur pour eux, mais ils ont dit, chiche, allez. Et puis en plus, on ne te donne plus un centime, mais avec accord mutuel. Elle a vécu comme ça un peu elle-même. Elle a quitté son père et sa mère, c'est ça. Et au bout de 2 ans, elle a repris le chemin quand même, elle a retrouvé ses parents, adoptifs, mais ses parents. Mais il lui a fallu, à un moment donné, aller jusqu'au bout de la séparation et de la non-filiation pour comprendre quelle était sa filiation adoptive. Et pendant 2 ans, sans les voir, quasiment, ou très peu, elle a retrouvé la pureté de l'amour qu'il lui avait donné pendant tant d'années. Oui. Mais disons, il faut aimer, il faut être patient et tout ça, c'est des épreuves. Alors vous voyez, quand j'en vois les gens qui disent « Oui, mais vous comprenez, si on a 3 enfants, ça va être compliqué, 4 enfants, mais vous vous rendez compte, 5 enfants, on sait bien que vous étiez un amiche. » Si vous voulez, quand vous aurez des enfants, vous serez heureux d'en avoir. Quand je connais les couples qui n'en ont pas, je me dis, parfois ça relativise un peu. Mais en même temps, l'amour mutuel et personnel est le mariage, fondamentalement. Et je ne peux pas vous dire autre chose, puisque la famille exemplaire qu'on a, nous, dans le catholicisme, c'est un seul enfant. Et encore, le papa n'est pas le papa. Et là, on se moque. Vous nous dites qu'il faut vivre dans un amour ouvert et confiant, dans l'arrivée de la vie. Et puis vous, Marie et Joseph, ils n'ont même pas couché ensemble. Et, et le fils, il n'est que de la mère. Ah oui, mais enfin, l'amour conjugal entre Marie et Joseph, je peux vous assurer que ça devait être d'une finesse. Et puis cet enfant, je vous assurais aussi que ça devait bien remplir leur vie. Ça, c'est sûr. Mais Dieu chez vous, ça doit être particulier. Quel témoignage de notre amour en couple voudrions-nous donner? Accueil, ouverture aux autres, joie, équilibre. Donc, vous pouvez accueillir des migrants chez vous, hein, dans le salon, de préférence. Vous voyez? Qu'aimerions-nous transmettre aux autres? Sommes-nous déjà engagés dans des œuvres au service des autres? Donc voilà, vous allez à la mairie, vous demandez un couple d'Afghans avec 3 enfants, et vite, voilà, venez dans la famille! Voilà. Donc il faut avoir une générosité qui est toujours consciente. Si vous voulez être généreux, il faut bien faire attention. Déjà, si vous avez un copain de votre mari qui vient et qui est un pauvre homme, je ne vais pas dire un pauvre type, hein, on va dire on va l'aider et tout ça, et vous froncez les sourcils. Hein. Voilà. La générosité de l'accueil de l'autre, de votre engagement associatif, caritatif. Voilà. Quelles pourraient être les attentes de la société sur notre couple? Les attentes de l'Église, paroisse, mouvement, engagement. Voilà. Ça, pour vous, c'est déjà de fonder votre famille avant de vous disperser. Vous avez parfois des personnes qui sont hyperactives et qui arrivent à s'occuper de leur famille et de la vie du monde et de ceci et de cela, à gauche, à droite, de manière très importante. Alors, pour la prochaine fois, donc, nous ferons la 5e séance, ferons un petit repas ensemble, et je vous donne un petit résumé aussi. Mais j'aimerais, voilà, que vous puissiez, voyez-vous, il y a des petites prières bien, bien amusantes du pape Jean XXIII. Ça, c'est le bon sens à l'état cristallin. Il a été canonisé, mais c'était quelqu'un d'incroyable. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. Il faut l'écrire, ça. Il faut avoir une pensée extrêmement claire pour écrire un truc pareil. Rien qu'aujourd'hui, je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et à mes manières. Je ne critiquerai personne et je ne prétendrai redresser ou discipliner personne si ce n'est moi-même. Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux dans la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci. Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux circonstances sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai 10 minutes à la bonne lecture, en me souvenant que, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, la bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme. Et pourtant, on prend du temps pour manger. Hein. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et je n'en parlerai à personne. Rien qu'aujourd'hui, je ferai au moins une chose que je n'aurais pas envie de faire. Et si j'étais offensé, j'essaierais que personne ne le sache. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Là, c'est plus difficile, c'est le côté jésuite de l'Église. Je ne m'en acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai. Et je me garderai de 2 calamités, la hâte et l'indécision. Là, ça commence à devenir... Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement... même si les circonstances prouvent le contraire, que la bonne providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde pour Dieu. L'amour personnel que vous pourrez avoir vis-à-vis de Dieu, et comme la parole du Père s'est incarnée, voyez, que Jésus s'occupe de vous personnellement. et n'aime que vous. Et pourtant, c'est vrai. Même le bonhomme qui a tiré sur les gens à Strasbourg, au risque de vous choquer, n'est-ce pas, Dieu, avant qu'il ne meure, fera en sorte qu'il se sauve. Et s'il ne veut pas se sauver, et s'il est toujours dans cette haine, il se damnera. Mais seulement en tant que chrétien, nous croyons que Dieu le suivra pour le pousser à abandonner sa haine. Et ça, c'est la religion chrétienne. Rien qu'aujourd'hui, je ne craindrai pas, et tout spécialement, je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire en la bonté. Et je termine ici. Bienheureux, alors c'est le père de Chivray qui est un dominicain. Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser. Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une topinière, il leur sera épargné bien des tracas. Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses, ils deviendront sages. Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter, ils en apprendront des choses nouvelles. Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux. Ils seront appréciés de leur entourage. Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses sérieuses. Vous irez loin dans la vie. Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace. Votre route sera ensoleillée. C'est un peu classique, mais voyez. Et ce genre de choses, voyez-vous, on le lit, on a une carte postale, on le met dans un coin. Mais on ne le médite pas. On a dans une préparation de mariage, on met la feuille dans un coin et on ne le médite pas. Et quand ça nous arrive, on n'est pas aidé parce qu'on ne l'a pas. On n'y pense pas. Ça, c'est mignon comme tout. Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d'autrui, même si les apparences sont contraires. Vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser. Ils éviteront bien des bêtises. Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsqu'on vous coupe la parole, lorsqu'on vous contredit et qu'on vous marche sur les pieds. L'évangile commence à pénétrer votre cœur. Allez. Vous savez, la déchristianisation de l'Occident se manifeste par la violence actuelle. Ah oui, mais il y a eu les croisades, l'inquisition, les machins, les conneries. Non, non, non. Non, non. Il y avait beaucoup de saints et de saintes, il y avait beaucoup de personnes qui étaient imprégnées de l'évangile. Et là, on est de moins en moins, en moins, en moins. Bienheureux surtout, vous qui savez reconnaître le Seigneur en tout ce que vous rencontrez, vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse. Là, c'est très, très, très chrétien. Et nous verrons ensemble la prochaine fois la cinquième séance et les passions et un peu les vertus, mais je vous les donne déjà. Tenez.